qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à Sévrac-le-Château 102.3.
Il est midi et une minute, soyez les bienvenus pour cette émission Présence Midi en direct jusqu'à 13h. Saint-Orens a évangélisé la Bigorre au 4e siècle. Saint-Orens est né à Huesca en Aragon. Il devient ensuite ermite à Villelongue dans les Hautes-Pyrénées. Et la suite de ce récit, ce sera dans un instant avec Catherine Albrecht au micro d'Anne-Rose Jankovic. Monseigneur Pierre Moller était évêque du diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron de 1986 à 2008. Il fête cette année ses 40 ans d'épiscopat. À cette occasion, Violaine Ricourt-Dumas a recueilli son témoignage. Un témoignage à écouter dans un instant, juste après l'essentiel de l'actualité régionale avec les titres à la une. Les titres sont présentés par Clémence Roux.
Bonjour à tous. Dans l'actualité régionale, un Espagnol de 25 ans a été condamné à 4 ans de prison, dont 1 an avec sursis, après avoir été contrôlé au péage de l'Union avec 259 kilos de cannabis dans son véhicule. Dans le Tarn, un cas de dengue autochtone a été confirmé à Carmo. Deux opérations de démoustication sont en cours pour éviter la propagation du virus. En Tarn-et-Garonne, la Chambre d'agriculture demande la relance des projets de retenue d'eau afin de faire face aux sécheresses de plus en plus fréquentes. Et la Cour d'appel de Toulouse a ordonné le placement en détention de 22 personnes dans le cadre du réexamen des dossiers liés à l'affaire Liana, un vaste réseau de prostitution de mineurs. Enfin, les secours appellent à la prudence avec les fortes chaleurs. Les sauts depuis les ponts avec les rivières peuvent provoquer des incidents très graves. Voilà pour les titres de l'actualité.
Merci Clémence. On vous retrouve tout à l'heure à 12h30 pour développer ces titres dans le journal. À tout à l'heure. La suite de cette émission dans ce Présence Midi, c'est avec Violaine Ricourt-Dumas.
Présence dans la vallée de la Garonne. 97.9.
Monseigneur Pierre Moller, bonjour à vous. Vous êtes l'ancien évêque de Bayonne, Lescar et Oloron et vous fêtez cette année vos 40 ans d'épiscopat, donc, puisque vous avez été évêque de Bayonne de 1986
à 2008.
Jusqu'à 2008, voilà. Donc vous êtes resté 22 ans évêque de Bayonne, Lescar et Oloron. Donc cette ordination qui a eu lieu il y a 40 ans, vous vous en souvenez bien, est-ce que vous pouvez nous raconter ?
Eh bien, l'ordination, d'abord, elle a commencé par une pluie torrentielle. Et donc, j'ai attribué ça au déversement de la grâce. Voilà. Mais en même temps, l'épiscopat a été très tumultueux. C'était une période difficile de fin d'époque. Parce que maintenant, le monde a beaucoup changé. Et on ne peut plus gérer ce diocèse et administrer ce diocèse comme de mon époque, où ce qui faisait l'actualité, la une, c'était l'affaire basque-espagnole, basque-nationale, et puis après les événements de Lac, la fermeture du gaz de Lac.
Alors donc, effectivement, vous avez vécu la cause basque de plein fouet. Pour vous, ça n'a pas été facile. Il y a eu des occupations de la cathédrale, je crois.
Très difficile parce que, d'abord, je ne connaissais pas la langue, et je ne connaissais pas du tout la situation, et il m'a fallu apprendre peu à peu, et très difficilement parce que, à cette époque-là, les prêtres qui étaient très au courant ne parlaient pas. Ils avaient la consigne de ne pas parler. Donc, il m'a fallu tout découvrir de moi-même, et paradoxalement, ça a été dans les Landes, mon diocèse d'origine, où j'ai su d'un prêtre basque qui était les événements où ce prêtre basque a pu m'expliquer les enjeux. Ça a été très important pour moi.
Comment est-ce que vous avez fait alors pour comprendre et pour accompagner la fin de ce conflit ?
Alors, d'abord, eh bien, justement, par ce prêtre, parce que chaque semaine, je revenais dans les Landes pour une journée de repos, et donc je le voyais, et il se tenait très au courant, c'était un homme très intelligent, et il se tenait tout à fait au courant des événements, et il m'expliquait, peu à peu. Et puis après, j'ai dû faire moi-même, par la grâce du Seigneur. J'ai eu affaire pendant 10 ans à l'occupation de la cathédrale de Bayonne 2 fois par an. Mais maintenant, je vous décris ça comme quelque chose de logique, mais j'ai dû constater cela. Et donc, il a fallu réagir sur le moment, à chaud. Mais je me réservais toujours au moins 10 minutes de concentration et de prière. Au moins 10 minutes. Voilà.
C'est ça qui vous a aidé ?
Oui.
Oui.
Beaucoup.
Et puis vous avez évoqué donc le bassin de Lac avec la fin de l'activité au bassin de Lac.
Oui. Et alors après, il y avait quand même un certain nombre de prêtres ouvriers. Mais enfin, ces prêtres ouvriers, ils étaient quand même très loin de l'évêché de Bayonne, et très déconnectés de la réalité diocésaine, parce qu'ils étaient tellement empreints de cette problématique sociale que je les voyais très peu. Et donc, je n'ai pas été conseillé du tout par eux. Mais il m'a fallu quand même là aussi réagir. Et c'est ce que j'ai fait. Par un communiqué où il a fallu que je dise que le directeur qui venait en même temps d'afficher les bénéfices de l'entreprise, en même temps, il serrait les vis pour le personnel. Et alors, j'ai fait voir le paradoxe de cette attitude.
Donc, l'Église a un rôle à jouer dans la société, et vous l'avez montré.
Bien sûr.
Par vos actions, par vos communiqués.
Si bien que mon communiqué à moi a été affiché sur les murs de l'usine de Lac.
Voilà. Et puis concernant donc le diocèse lui-même, la vie spirituelle, il y a eu un synode, je crois, pendant votre épiscopat.
Il y en a eu même deux. En 2012 et puis après plus tard. Et ça a été un grand moment parce que là, par une espèce de méthode, il y a eu communication et même communion entre les élus du Béarn et les élus du Pays Basque. C'était très nouveau à ce moment-là.
Oui. Voilà. À votre époque, le Béarn et le Pays Basque étaient très séparés. Vous trouvez que ça s'est amélioré aujourd'hui ?
Bien sûr. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, l'autoroute Bayonne-Pau n'était pas encore faite. Et moi-même, ça me demandait beaucoup de temps d'aller de Bayonne à Pau. Et c'est le maire de Bayonne qui, intelligemment, a vu que sur le plan économique et aussi peut-être politique, ce serait bien. Et de fait, parce que ce que l'on n'a pas dit, c'est que en Béarn, on était très, très partie prenante du statu quo, puisque tout l'argent des gaz de Lac revenait en Béarn.
Et oui.
Et pas du tout, il n'y avait aucune retombée à ce moment-là au Pays Basque.
Mais vous avez senti que cette autoroute a créé plus de communion.
Ah oui. Et plus d'emplois aussi, parce que peu à peu, il y a eu quand même des emplois qui sont venus de Bayonne. Voilà. Ça a été, sur le plan objectif, une espèce de rééquilibrage de la justice sociale.
Donc, un petit bilan de ces 40 ans d'épiscopat. Qu'est-ce que vous pouvez dire ? Qu'est-ce qui vous a rendu heureux ?
D'abord, le diocèse de Bayonne-Pau était un beau diocèse, un grand diocèse. On sentait qu'il avait une grande vitalité. Et je pense qu'on pouvait dire que c'était dû en partie à l'Église, qui a fait son travail d'évangélisation, mais à sa manière, à cette époque. Parce que beaucoup de prêtres étaient d'origine rurale, ils n'avaient pas été formés à la modernité comme l'Église a basculé maintenant, et la société. Donc, ils ont fait le mieux possible, comme ils ont pu. Mais il y avait peu à peu, moi je sentais très bien qu'il y avait des points de fragilité. Et ça, les prêtres n'étaient pas très au courant de tout ça.
Ouais. Aujourd'hui, Monseigneur Moller, vous habitez donc à Bières, chez les Pères Blancs. Oui. Vous êtes encore actif, je crois. On vous demande encore beaucoup de choses. Oui. Comment vit un évêque émérite quand il y a un autre évêque sur place? Vous arrivez à trouver votre place?
Mon environnement, je suis environné de livres. Je lis beaucoup. Je reçois aussi. J'écris, voilà. Et en même temps, je prie, bien sûr, pour les évolutions négative parfois. Il faut se dire ça. Tout n'est pas, c'est pas le pays du cocagne qu'on disait. Même si sur le plan économique, pour le moment, ça va. Mais il y a quand même beaucoup de pauvres, de pauvreté. Il faut le savoir, cela.
Donc on sait que vous êtes là pour prier pour tous les diocésains, et c'est important.
Et pour mes successeurs, voilà.
Très bien, merci beaucoup Monseigneur Moller.
Voilà Monseigneur Pierre Moller, qui est évêque du diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron de 1986 à 2008. Il fête cette année ses 40 ans d'épiscopat, et c'est à cette occasion que Violaine Ricourt-Dumas a recueilli les témoignages que vous venez d'écouter.
Radio Présence à Pamiers, 100.2.
Saint Orens a évangélisé la Bigorre, c'était au 4e siècle. Saint Orens est né à Huesca, c'est en Aragon, et il devient ermite à Villelongue dans les Hautes-Pyrénées. La suite du récit, ça sera dans un instant avec Catherine Albrecht et Anne-Rose Jankovic, juste après un extrait du spectacle Bernadette de Lourdes avec N'être qu'un homme.
J'ai ton regard au fond du mien, et de l'amour qui me revient, des souvenirs qui pleurent en moi. Mais on n'a plus le temps pour ça. Bien sûr que je n'étais pas tendre, je ne savais pas comment m'y prendre. Avec l'amour, avec l'enfance, je ne parlais que par silence. Est-ce qu'on a le père qu'on mérite? Est-ce qu'on mérite le père qu'on a? Sans un père, on n'est personne. On se perd, on abandonne. Dis-moi, est-ce que l'on pardonne à son père d'être un homme? Les prières que l'on bâillonne, les promesses qu'il abandonne. Dis-moi, est-ce que l'on pardonne à un père d'être un homme? Sans un père, on n'est personne. On se perd, on abandonne. Dis-moi, est-ce que tu pardonnes à ton père d'être un homme? Un homme qui te dira ma fille je t'aime, qui t'apprendra à faire de même, qui te tiendra encore la main quand tu voudras pleurer pour rien. Pour toutes les fois où j'étais là, quand tu avais besoin de moi, en te donnant ce que j'ai pu, ce que j'avais, en quoi j'ai cru. Est-ce qu'on a le père qu'on mérite? Est-ce qu'on mérite le père qu'on a? Sans un père, on n'est personne. On se perd, on abandonne. Dis-moi, est-ce que l'on pardonne à son père d'être un homme? Les prières que l'on bâillonne, les promesses qu'il abandonne. Dis-moi, est-ce que l'on pardonne à un père d'être un homme? Sans un père, on n'est personne. On se perd, on abandonne. Dis-moi, est-ce que tu pardonnes à ton père de n'être qu'un homme? Personne, on se perd, on abandonne. Dis-moi, est-ce que l'on pardonne son père d'être un homme. Les prières que l'on bâillonne, les promesses qu'il abandonne. Dis-moi, est-ce que l'on pardonne à un père d'être un homme? Sans un père, on n'est personne. On se perd, on abandonne. Dis-moi, est-ce que tu pardonnes à ton père de n'être qu'un homme?
Bon appétit à l'écoute de Radio Présence. Dans moins d'un quart d'heure, le journal régional avec Clémence Roux. Pour le moment, c'est Catherine Albrecht au micro d'Anne-Rose Jankovic.
Qu'un homme.
Présence à Pamiers, 100.2.
Bonjour Catherine Albrecht.
Bonjour Anne-Rose.
Vous êtes une artiste, vous habitez dans le diocèse de Tarbes et Lourdes à Villelongue, donc du côté d'Argelès-Gazost. Et c'est là que vous avez découvert la figure d'un saint qui est très important dans notre diocèse de Tarbes et Lourdes, c'est Saint Taurens. On vous ouvre le micro pour que vous nous parliez de ce saint qui a évangélisé la Bigorre au IVe siècle. D'abord, est-ce que vous pouvez nous raconter où est-ce que la vie de Saint Taurens a commencé ?
En fait, on ne s'attend pas à ça, mais c'est un Espagnol. Et à l'époque, donc fin du IVe siècle, les Pyrénées forment un seul bloc et on navigue aisément de ce qu'on appelle la France maintenant à l'Espagne, ce qu'on appelle l'Espagne maintenant. Donc les routes, elles traversent nos montagnes. Donc Saint Taurens, de son nom latin Orientius, est né à Huesca. À Huesca, dans l'Aragon, d'une famille très aisée. On pourrait la comparer, cette famille, un petit peu, par la fortune, aujourd'hui, à L'Oréal. Donc, vraiment, des grandes possessions de terre. Le père, il était gouverneur de la province. La maman, bon, vraiment une noble aussi, un haut rang. Et il était appelé à succéder à son père. Bon, qu'est-ce qui fait qu'il devient ermite dans une grotte à Villelongue?
Alors qu'il aurait pu, que tout était offert sur un plateau.
Même un plateau doré. D'habitude, on dit un plateau d'argent, mais là, c'était carrément un plateau doré. Et donc, il a un frère qui s'appelle Laurent, qui est devenu Saint-Laurent aussi. Et donc, le papa est mort, il s'appelait Orens aussi. Le frère hérite de toutes ses provinces et de toutes ses richesses. Et Saint-Laurent part à Rome, avec le destin qu'on lui connaît. Et donc, Orens hérite, et en fait, un ange l'avertit, comme quoi il va hériter, donc il s'enfuit. Et il s'enfuit, il traverse les Pyrénées, et il arrive à Villelongue. Voilà, en bas de Villelongue, hein, il démarre en bas.
Voilà, il démarre en bas. Alors voilà comment il est arrivé chez nous, en Bigorre. Vous dites qu'il a fui parce qu'il a senti que sa vocation n'était pas de la suite de son père, mais qu'il était appelé à autre chose. Il avait déjà une vocation sacerdotale en lui.
Oui, je pense que ses biographes ne vont pas jusque-là, mais c'est ce qu'on ressent en fait quand on lit son histoire à travers différentes biographies. Bon, il vivait une vie un petit peu comme Saint François, faite plutôt de plaisirs mondains. Enfin, il vivait vraiment dans de ses richesses. Et il s'est rendu compte à un moment donné que c'était pas ça d'être chrétien, parce qu'il était chrétien. Et donc, il s'est dit que il avait une haute idée de ce que c'est d'être chrétien. Et c'est pour ça qu'il a fui, en fait.
Donc, il était un peu en quête d'un idéal, on peut dire.
Complètement.
Il est arrivé à Villelongue. Qu'est-ce qui fait qu'il est resté ? Il aurait pu poursuivre sa route ?
Alors ça, je ne saurais pas. Peut-être que c'est les montagnes qui lui ont plu. Il faut dire que c'est très joli comme endroit, Villelongue. Alors, il a commencé par s'intégrer à la population locale en créant un moulin. C'est le premier moulin de la Bigorre qu'il a créé. Et donc, c'était assez ingénieux comme système. Alors, il y a certains qui disent qu'il est l'inventeur du moulin. Bon, à voir.
Voilà, on garde quand même on émet quelques réserves. Mais bon, cela dit, il a créé fondé ce premier moulin. Quel était le visage de la Bigorre à ce moment-là ? C'était une terre qui n'était pas chrétienne encore.
Non, pas du tout. Et donc, il a fait sa renommée justement parce que les gens venaient lui apporter le blé et c'est comme ça aussi qu'il gagnait son argent en faisant de la farine. Et Il en profitait pour justement exprimer les paraboles du Christ, voilà. Et c'est comme ça qu'il a commencé à évangéliser la Bigorre. Et sa renommée a grandi parce qu'il était très zélé dans son apostolat. Et pour finir, il y avait tellement de gens qui venaient le voir, pas que pour moudre le grain, qu'il a de nouveau fui. C'est quelqu'un qui va fuir 4-5 fois dans sa vie. Hein. Quand il en a assez, il arrête. Et donc, il est monté plus haut dans la montagne parce qu'il s'est dit aussi que ça correspondait pas à son idéal. Il avait vraiment une autre idée de l'idéal chrétien. Donc, il a trouvé une grotte dans laquelle il a habité. À la faveur d'un tremblement de terre, il a trouvé un passage un peu secret vers une grotte. Et donc, il couchait à même la pierre dans cette grotte. Et il allait se tremper dans le ruisseau Isabi, un magnifique ruisseau avec des très jolies cascades. Vraiment, en plein hiver, seulement vêtu d'une simple tunique et avec une chaîne en fer autour des reins. Donc, c'est quelqu'un qui pratiquait une ascèse très, très stricte.
C'est étonnant, cette soif de vivre caché. Ça me fait un petit peu penser à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face qui veut rentrer au couvent pour se cacher.
Alors, c'est absolument pareil. Donc, il chantait les psaumes, par exemple, dans l'Isabie. Il chantait tous les psaumes dans l'Isabie, en plein hiver, à peine habillé, avec cette fameuse ceinture de fer autour des reins. Enfin, une chaînette de fer. Cette chaînette, elle existe toujours et on lui attribue toujours des pouvoirs de guérison.
Alors, une fois caché, est-ce qu'il a néanmoins continué à évangéliser et de quelle manière ?
Alors, il a dit aux habitants de Villelongue qu'ils pouvaient vraiment cultiver, parce que c'était quand même à la base un agriculteur, même s'il était quelqu'un de très très lettré et qu'il avait eu une éducation très très soignée. En fait, à Villelongue, il se révèle comme un agriculteur. Il leur dit, ben voilà, les pentes du Nerbiou, vous pouvez vraiment vous les approprier. C'était une forêt dense et dedans, on lui prêtait des pouvoirs maléfiques. On disait que des démons habitaient dedans. Et lui, il bénit cette forêt et il commence à défricher et à cultiver. Et ça aussi, ça a fait sa renommée. Parce que c'est comme s'il avait vaincu les démons, quelque part.
Et puis, ce travail de la terre le rendait crédible aux yeux de la population.
Complètement, oui, oui. Il était intégré 100%, déjà avec son travail de meunier, puis après avec son travail d'agriculteur, il était complètement intégré dans la population.
Il est resté là combien de temps ?
Environ, une vingtaine d'années, jusqu'à ce qu'il soit appelé pour être évêque d'Auch. Alors, à l'époque, il n'y avait pas le nonce apostolique, tout ça, c'était par acclamation. Donc, dans la cathédrale d'Auch est sorti le nom à l'acclamation. Oh Reims.
Sa renommée s'était étendue jusqu'au diocèse d'à côté.
Oui, et c'était une renommée assez, assez importante. Donc, est-ce qu'il va dire oui ? Eh ben non.
il pouvait refuser.
Je ne crois pas. Mais il a refusé.
Bon, alors, il est têtu en plus, quand même.
Donc, pour lui, c'était de nouveau trop s'exposer. C'était pas la vie qu'il voulait. Il voulait une vie ascétique, vraiment tournée vers Dieu. Donc, il fait un challenge. Il a un bâton pastoral. Et si ce bâton pastoral fleurit, il acceptera la charge d'évêque d'Auch. Évidemment. Le bâton fleurit. Donc ça fait un des premiers miracles que tous les biographes racontent. Donc il va à Auch comme évêque d'Auch.
Oui, parce que obéissant quand même à la volonté de Dieu, bien sûr.
Oui, il voulait vraiment la connaître, cette volonté de Dieu, parce que lui, il s'était fixé quelque chose de très ascétique, quoi. Donc, il devient évêque d'Auch, et là aussi, sa renommée continue à s'étendre. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Un jour, alors, Toulouse est la capitale des Visigoths, à l'époque. Alors, le roi Visigoth, Théodoric, il se fâche avec les Romains, donc, qui étaient un peu, on va dire, les occupants de toute la Gaule. Et donc, le roi est fâché, donc les Romains assiègent Toulouse. Mais il faut un siège vraiment très très dur. Le roi Théodoric fait appel à Orens, saint Orens, évêque d'Auch, pour devenir médiateur. Parce qu'il est aussi très connu pour ses talents de médiateur. Enfin, il a beaucoup de talent. J'en citerai d'autres, entre parenthèses. Il a écrit un poème qui fait 1500 vers et qui est un petit peu sur tout ce que c'est que d'être chrétien, qui s'appelle Le Monitoire. Ce poème, il est gardé précieusement dans différentes bibliothèques. Il écrit en latin, d'ailleurs. Donc, un grand poète aussi, au Reims. Donc, il vient au Reims, à Toulouse, pour faire la médiation, mais cette médiation échoue. Donc, il est fait prisonnier. Malgré tout, il convainc la population de Toulouse de prier. Donc, tout le monde prie, parce que c'est vraiment la dernière...
Parce que c'est lui qui le demande, en plus.
Et c'est la dernière extrémité. Hein. Ils sont à deux doigts de capituler. Et tombe une brume autour sur le camp et le lieu de bataille du général Litorius et du roi Théodoric, une brume qui fait que, ben, malgré tout, malgré le petit nombre de Toulousains, les Romains sont vaincus. Donc on attribue cette victoire à Saint-Orens aussi. Voilà. Et le lieu de la bataille porte le nom de Saint-Orens de Gameville, voilà, près de Toulouse. Donc ça, ils ont gardé cette mémoire.
Donc on voit qu'il a marqué, alors bien sûr, la Bigorre et puis les diocèses à côté. Qu'est-ce qui s'est passé ici en Bigorre quand Orens est parti à Auch? Il avait eu le temps d'évangéliser, voilà, d'annoncer la bonne nouvelle. Ça a continué, ça a perduré. Qu'est-ce qui a fait que ça a perduré?
En fait, est arrivé un autre Espagnol du nom de Savin. Saint Savin, voilà, il est arrivé 5 ans après Saint-Orens, et c'était en quelque sorte 2 phares lumineux, un de chaque côté de la vallée, qui ont évangélisé la Bigorre. Pratiquement, on va dire, un peu à bricole près, en même temps. Et quand il est parti pour être évêque à Auch, Saint-Orens, ça on est vraiment sûr, il a confié la Bigorre à Saint Savin.
Voilà, donc on peut dire que ce sont nos deux pères bigourdans. Hein.
Oui, c'est des primo-évangélisateurs. Moi, j'attache une importance très particulière à ces deux figures-là, parce que sans eux, on n'aurait peut-être pas eu la foi chrétienne à ce moment-là.
Voilà, marque une pause dans ce récit sur Saint-Orens avec Catherine Albrecht et Anne-Rose Jankovic. Et cette pause, on va la marquer avec le journal régional et Clémence Roux.
Bonjour à tous. Dans l'actualité régionale, un Espagnol de 25 ans a été condamné à 4 ans de prison, dont 1 an avec sursis et 800 000 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Toulouse. Contrôlé au péage de l'Union, il transportait 259 kilos de cannabis dissimulés dans son véhicule. La marchandise était destinée à alimenter un réseau de trafic de stupéfiants dans le sud-ouest. Dans le Tarn, un cas de dingue autochtone a été confirmé à Carmo. Cela signifie que la personne contaminée n'a pas voyagé dans une zone où circule habituellement le virus. 2 opérations de démoustication sont menées autour des lieux fréquentés par le patient afin d'éviter toute propagation par le moustique tigre. Face au manque d'eau, le président de la Chambre d'agriculture de Tarn-et-Garonne appelle à relancer les projets de retenue d'eau. Selon lui, les épisodes de sécheresse se multiplient et ces réserves sont devenues indispensables pour garantir l'irrigation des cultures et maintenir l'activité agricole. Justice ensuite, après le réexamen des dossiers liés à l'affaire Liana, la Cour d'appel de Toulouse a ordonné le placement en détention de 22 personnes. Cette décision intervient après la reprise de plusieurs procédures concernant ce vaste réseau de prostitution de mineurs à la suite des dysfonctionnements mis en évidence dans l'enquête finale. En sport, la Toulousaine Laurie Digné est devenue championne du monde de football gaélique avec l'équipe de France. Cette discipline d'origine irlandaise encore peu connue dans l'Hexagone mêle football, rugby et handball. Enfin, avec les fortes chaleurs, les secours rappellent que les sauts depuis les ponts vers les rivières peuvent avoir de lourdes conséquences. Une profondeur insuffisante ou des obstacles peuvent provoquer des traumatismes graves, parfois irréversibles.
Merci Clémence Roux, voilà pour le journal régional. À 13h, c'est l'actualité nationale et internationale avec la rédaction française de Radio Vatican. La suite de Présence Midi dans quelques minutes, ce sera avec Anne Lasser à le regard des écrivains sur les Pyrénées. Mais pour le moment, on continue le récit de Saint-Orens avec Catherine Albrecht et Anne-Rose Jankovic.
Présence à Aspé 94.1.
Alors, vous nous parliez du miracle du bâton qui a fleuri. Il y en a eu d'autres. À quel miracle on attribue à Saint Savin et qu'est-ce qui fait à Saint-Orens, pardon, et qu'est-ce qui fait qu'Orens est devenu saint?
Il faut raconter la suite de l'histoire pour un petit peu comprendre comment il est devenu saint. En fait, il a fait plusieurs, je dirais, des stages à Villelongue quand il était évêque. Il est revenu. Bon, les gens sont revenus le chercher pour qu'il retourne à Auch. Mais je crois qu'il avait besoin. Il est revenu, je crois, deux fois, un long moment, à Villelongue. Quand il est retourné à Auch et qu'il y est resté, c'est un autre roi franc qui a fait appel à lui parce que sa fille, elle était Cornélia, était possédée par un démon. Et donc, il a fait un exorcisme sur cette jeune fille et qui a convaincu ce roi franc de se convertir aussi à la foi chrétienne. Et de ce roi franc, c'est une branche des rois de France. Il est né une branche des rois de France de ce roi franc. Donc voilà, donc Saint-Aurin, il est un petit peu aussi, je dirais, à la base du royaume de la France, parce que d'avoir fait cet exorcisme. Donc son aura entre, on va dire, le bâton qui fleurit, son zèle apostolique pour vraiment expliquer qui était le Christ, vraiment expliquer avec des paraboles, le fait qu'il ait réussi à faire la paix à Toulouse, gagner cette bataille, après son ministère aussi à Auch et la guérison de cette jeune fille, au fond, par cet exorcisme, bon, il a acquis une réputation énorme. Et donc, quand il est mort, ben, les gens venaient sur sa pierre tombale à Auch. Au départ, elle était à Auch. Maintenant, elle est à Huesca. Il y a eu une translation dans les années 1670 de ses reliques. Voilà, donc ils venaient sur sa pierre tombale et ils étaient guéris. Et ça, pendant des siècles. Il venait aussi sur la pierre qui lui avait servi de lit dans la fameuse grotte où il habitait à Villelongue. Là aussi, il y avait des miracles. Et on a un petit bout de la chaîne, elle est dans un reliquaire aussi dans l'église de Villelongue. Ce reliquaire était sorti et des enfants étaient guéris. Il guérissait des enfants, voilà.
Aujourd'hui, on parle beaucoup de Saint-Savin. En Bigorre, parce qu'il y a l'abbatiale, parce que de fait, par l'abbatiale, on a le sentiment que Saint-Savin est plus accessible, peut-être. Mais Saint-Aurin, c'est quand même le primo évangélisateur de la Bigorre. Quelles sont les traces aujourd'hui, ici en Bigorre, de la vie de Saint-Aurin ?
Alors les traces, elles sont essentiellement à Villelongue. Il y a à la fois dans la statue ce fameux reliquaire avec plusieurs reliques hein, de ces ossements et aussi de cette fameuse chaînette. Je fais une petite parenthèse. Ces reliques, elles ont été volées en 2004 par des personnes, voilà, qui pensaient peut-être s'attribuer pour eux ces pouvoirs de guérison. Et je pense que ça a plutôt mal tourné parce que 10 ans après, en 2014, il y avait un petit sac plastique accroché à l'église de Villelongue dans lequel il y a un petit mot. Voici les reliques de Saint-Aurin.
C'est incroyable cette histoire.
Oui, complètement. Et on a été assez bouleversés, je dois dire. Et donc ça a pris un certain temps pour vraiment faire tout le travail de savoir si c'était bien les reliques de Saint-Aurin, qu'on n'était pas dupés, hein, en quelque sorte. C'est l'abbé Joanneau-Loup qui a fait ce travail-là de reconnaissance avec Madame Castillo. Et puis, ça aboutit à une très jolie cérémonie, un 15 août, où on a vraiment remis les reliques. Elles ont été attestées comme étant exactes, hein, puisqu'ils ont trouvé des documents vraiment décrivant les reliques trait pour trait. Et un 15 août 2014, on a fait une très très belle célébration pour remettre en place les reliques dans le reliquaire de Saint-Aurin. La deuxième trace, c'est l'abbaye de Saint-Aurin. Alors, il n'y a jamais vécu. Ça a été une abbaye qui a été construite 4 siècles plus tard, mais qui porte son nom. Et qui a été faite aussi en quelque part un peu pour honorer sa mémoire.
Et qui se trouve au-delà du village d'Ortillac.
Oui, il faut monter un petit peu, c'est assez facile d'y accéder. Bon, ce sont des ruines, malgré tout, c'est des ruines très romantiques et très jolies.
Il y a eu une vie monastique à cet endroit-là ?
Oui, assez importante et assez longtemps, jusqu'à la Révolution. Mais la Révolution a fait que les bâtiments, ils ont été cédés à des personnes laïques, et à deux personnes. Donc l'église et le cloître ont été coupés en deux, mais au milieu. Et donc depuis la Révolution, ça appartient à deux familles différentes depuis plusieurs siècles. Voilà.
Et aujourd'hui, ce sont des ruines. Catherine Albrecht, vous êtes un petit peu passionnée par la vie de Saint-Orens, au point que vous avez écrit une pièce de théâtre, Orens et les champs étoilés. Alors déjà, ce nom est très joli, c'est un peu poétique, mais vous nous avez dit que Saint-Orens était un poète. Les champs étoilés, c'est quoi ? Pourquoi ce titre ?
Parce qu'en fait, pour moi, d'évangéliser, c'est comme un grand champ, en fait. C'est un grand champ à travailler. Et lui, il a fait ça à la fois, on va dire, d'une façon réelle, en tant qu'agriculteur, et après d'une façon imagée et poétique, avec son zèle apostolique. Et donc, c'est comme s'il avait mis plein d'étoiles dans notre région, quoi.
Ah, c'est très joli de connaître la raison. Est-ce que vous voulez bien, pour conclure cet entretien, nous lire un passage de cette pièce de théâtre?
Alors, je vais vous lire L'enfance d'Orens, La charité délicate. Alors, on est chez les Orens, donc une famille très très riche, hein, c'est vraiment un joli décor, très riche. Alors, Orens est enfant, hein, je vais vous raconter un petit épisode d'Orens enfant. Je m'appelle Orens, je suis né dans une famille noble. Mon prénom a une origine latine qui signifie le surgissant. Je suis né en Espagne, plus précisément à Huesca, en l'an 370 après Jésus-Christ. Huesca, c'est tout près de la frontière, de l'autre côté des monts Pyrénéens, en Espagne. Nous sommes chrétiens. Cela veut dire que nous croyons en Jésus, le Messie ressuscité des morts, le premier des vivants. Bon, il dit tout de suite sa foi. Son papa l'appelle. « Orens, Orens, où es-tu, mon enfant ?» C'est mon papa qui m'appelle. Il porte d'ailleurs le même prénom que moi, Orens. Il est avec maman, elle s'appelle Patience, de son prénom. Je trouve que c'est joli, Patience, et que ça lui va bien. « Je suis là, papa !» Et ton frère, il n'est pas avec toi. Laurent, sors de ta cachette. Papa et maman nous cherchent. On arrête de jouer, c'est l'heure des devoirs. La maman dit, votre précepteur est arrivé. Allez le rejoindre, mes chéris. Il vous faut apprendre. C'est l'heure de la lecture et de l'écriture ensuite. Allez, on y va. Orens, mon cher époux, penses-tu que l'un de nos enfants prendra ta succession en tant que gouverneur de la province de Tarragone? C'est une lourde charge de diriger une telle province, malgré tous les honneurs liés à ce haut rang. Le papa dit, à cela il faut ajouter l'administration de nos palais, ainsi que de tous nos biens et de nos vastes exploitations agricoles, sans compter le nombre de nos serviteurs à diriger. Ah, nos enfants sont encore jeunes, peut-être que je m'inquiète trop de leur avenir. Mais je suis rassurée, car tu prends aussi part à leur éducation pour en faire des hommes de qualité. Orens enfant. Vous voyez, j'ai une enfance heureuse, entre un père et une mère qui s'aiment et qui nous aiment, mon frère et moi. Des précepteurs nous ont appris à lire, à écrire. Mais c'est mon père qui m'a appris la charité. Quand on a beaucoup d'argent, comme nous, est-ce que nous savons donner à ceux qui sont dans le besoin? Savons-nous être généreux? Alors là, il y a plein de monde qui arrive. On va sauter un petit peu, tout ça. On va lire la fin de cette petite scène. On est en présence, au milieu de la scène, de gens qui sont un petit couple qui est ruiné. Et bien, Orens, ça lui fend le cœur de voir ce couple ruiné. Il y a un serviteur qui annonce que ce petit couple est ici. Le père dit au serviteur, je ne vais pas les recevoir, je ne les recevrai point. Donc, la maman, Patience, dit, tu es sûr? Mais ne sont-ils pas dans le besoin? Alors, Orens va vous recevoir, il va nous aider, dit le petit couple. Et le serviteur dit non, hélas, il refuse de vous recevoir. Donc, la maman du petit couple dit, mais qu'allons-nous devenir, et les enfants? Et donc, il y a une jeune femme, qui est une servante, qui arrive, et qui dit, bon, bonjour, vous êtes bien le négociant, l'ancien négociant qui est tombé dans la ruine? Lui dit, oui, c'est moi, qu'est-ce qui vous amène? J'ai une bague en or, je voudrais la vendre, car je dois voyager, et je ne peux pas l'emporter avec moi, peu importe la somme d'argent que vous me verserez. Le monsieur ruiné dit, oh, c'est une belle bague, d'une grande valeur, je ne peux pas vous causer du tort, car je ne peux pas payer le juste prix, je n'en ai plus les moyens. La dame dit, j'insiste, je souhaite vous la céder. Vous en ferez meilleur usage que moi. Le monsieur dit, j'ai deux pièces d'argent, c'est tout ce qu'il me reste. Je peux vous donner une pièce d'argent pour la bague. Bon, d'accord, dit la dame. Un autre serviteur arrive et dit, voilà, là j'ai un manteau tissé de fil d'or, un habit vraiment très beau, précieux, mais je n'en veux plus, il ne me plaît plus. Pouvez-vous me l'acheter, même pour quelques sous? Soit, il me reste une pièce d'argent, c'est toute ma fortune, c'était pour nourrir ma famille, mais tenez, voici. À votre avis, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, le négociant, comme il sait bien faire des affaires, eh bien, en fait, il va revendre la bague et revendre le joli manteau et va avoir beaucoup d'argent en contrepartie. Et les deux personnes qui ont amené cette bague et ce manteau, ce sont des serviteurs du papa de Reims. Et c'est ainsi qu'il a fait la charité. L'enfant, au Reims, était effrayé, en fait, de voir tout ça. Mais il a compris ce que c'était que la charité délicate, en fait. Le papa au Reims a fait confiance au talent de négociateur, de marchand. Il a redonné confiance, il a redonné de la marchandise pour pas cher. Et donc, au Reims, a compris ce que c'était que la charité délicate.
Voilà qui nous en dit long alors sur l'enfance et sur l'éducation qu'a reçu Saint-Aurin. Saint-Aurin qui est donc venu évangéliser notre Bigorre au IVe siècle, et Saint-Aurin que l'on partage quand même un petit peu avec nos amis du diocèse d'Auch et du diocèse de Toulouse. Merci beaucoup Catherine Albrecht de nous avoir aidé à plonger dans cette histoire, la vie et le visage de Saint-Aurin. Merci beaucoup.
Merci à vous tous.
Voilà. Merci à donc Catherine Albrecht et merci aussi à Anne-Rose Jankovic. Allez, bon appétit avec nous. La suite de Présence Midi direction les Pyrénées. On va vraiment prendre de l'altitude avec le regard des écrivains sur les Pyrénées. C'est Anne Lasserre qui nous rejoint dans un instant.
Comme une star de ciné, accoudée au jukebox. Elle rêvait qu'elle posait juste pour abouder celle à la Century Fox. Na, 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 na. Elle semblait bien dans sa peau, ses yeux couleur menthe à l'eau, cherche du regard un spot, le dieu projecteur. Et moi je n'en pouvais plus, bien sûr elle ne m'a pas vu, perdu dans sa mégalo. Marchait comme un chat qui méprise sa proie en frôlant le flipper. La chanson qui couvrait tous les mots qu'elle mimait semblait briser son cœur. Le charme est tombé, arrêtant le flipper. Ses yeux noirs ont lancé de l'agressivité sur le pauvre jukebox.
Évidemment reconnu la voix d'Eddie Mitchell avec Couleur Menthe. Allô, bon été et puis bonnes vacances à vous qui nous écoutez, qui êtes peut-être de vacances dans notre région. On va prendre maintenant un peu d'altitude et même un peu de fraîcheur grâce à Anne Lasserre avec le regard des écrivains sur les Pyrénées.
Présence à la Capelle Marival 97.7.
notre rendez-vous hebdomadaire avec Anne Lasserre, que j'ai le plaisir d'accueillir. Bonjour Anne.
Bonjour Gilles.
Et aujourd'hui, nous parlons des Pyrénées avec l'un des plus célèbres pyrénéistes. C'est le comte Henri Recel, dont la statue se dresse à l'entrée du village de Gavarnie.
Dans la seconde moitié du 19e siècle, Henri Recel a parcouru en effet l'ensemble de la chaîne et gravi la plupart des sommets pyrénéens. Et il a raconté, Gilles, ses ascensions dans un livre qui s'intitule « Souvenirs d'un montagnard ».
Alors, il est célèbre aussi pour avoir fait creuser des grottes dans les massifs du Vignemale. On en a parlé il y a quelques semaines sur notre antenne. Et le Vignemale était sa montagne préférée. Je crois qu'il l'a gravi 33 fois, dont une fois en plein hiver.
Oui, et je crois de mon côté qu'il a passé 150 nuits sur cette montagne, dont une sur le sommet et la plupart des autres nuits dans les fameuses grottes du Vignemale.
Alors je crois qu'il y a une photographie bien connue qui représente Henri Recel dans son sac en peau d'agneau. Un sac qu'il avait fait fabriquer pour passer des nuits à la Belle Étoile, à la Brèche de Roland ou bien encore au Vignemale.
On comprend dans ces cas-là qu'il ait eu le temps de méditer au sommet de ces montagnes.
Voilà, et c'est d'ailleurs une de ces réflexions concernant la montagne que vous allez nous faire partager immédiatement. On se retrouve juste après Anne Lasserre.
Le comte Henri Recel ne se présente plus. Ce grand pyrénéiste qu'un séjour à Gavarnie remettait sur pied quand il était malade à la fin de sa vie, qui avait loué le Vignemale et y avait fait construire des grottes, avait aussi des talents d'écrivain. Ses souvenirs d'un montagnard, dont la dernière édition date de 1908, juste un an avant sa mort, sont une œuvre remarquable. Il y compte ses ascensions, mais il livre aussi certaines de ses réflexions philosophiques. Le passage retenu s'intitule justement « Philosophie des ascensions ». On a chanté sur tous les tons, écrit Henri Recel, les merveilleux effets des ascensions sur l'organisme humain, sur la santé, sur la longévité, et on a eu raison. Mais leur côté psychologique, leur influence morale, l'empreinte profonde, ineffaçable et salutaire que laissent dans l'âme le culte et la fréquentation des hautes montagnes, tout cela est bien intéressant aussi et digne d'être étudié avec une gravité philosophique. C'est pourtant un sujet qu'on n'a fait qu'effleurer. C'est un aspect très négligé de l'alpinisme. Aussi, je sollicite l'honneur d'en dire un mot. Un des effets les plus palpables et les plus infaillibles de la vie dans les montagnes sur le caractère, pour peu qu'elle se prolonge, c'est de le rendre étrange, bizarre, indépendant, indifférent à l'opinion publique et capricieux. Et c'est tout naturel. Leur climat seul, ses inconstances et ses violences suffiraient pour cela. Elles semblent hors de la loi commune. Ce sont de grandes énigmes, des accidents énormes et mystérieux. N'ont-elles pas l'air de se moquer de tout le monde, de tout braver, d'être insociables, de n'obéir à aucune loi et de n'avoir besoin de rien? Ce sont des monstres sublimes, des fantômes éternels, des ouragans solidifiés. Ce sont des êtres à part qui finissent par imposer leur ressemblance à ceux qui les fréquentent, comme cela s'observe quelquefois en ménage. Le premier sentiment qu'elles inspirent, c'est l'effroi. L'amour ne vient qu'après. Un autre effet de la montagne sur l'homme qui s'en éprend, c'est de le rendre rêveur, mélancolique, et de le dégoûter de bien des choses qui passionnent ici-bas. Comment ne pas se détacher un peu des joies bruyantes, des faux plaisirs et de la politique après s'être enivré de liberté sur des savanes de neige, à 3000 mètres au-dessus des ennuis, des tristesses et des chaînes que nous impose la tyrannie du monde. Vu de si haut et de si loin, les dynasties, les républiques et les empires perdent de leur charme et de leur intérêt. Ça ne fait plus d'effet, on n'y pense plus. Et on trouve même que les rochers sont plus sages que les hommes, car aucun d'eux ne cherche à prendre la place de son voisin. Oui, les montagnes font réfléchir. Comment ne pas devenir rêveur et romanesque après avoir vécu avec les nuages et partager leur existence nomade, sereine et poétique, au milieu de l'espace, dans une lumière surnaturelle, à laquelle comparée celle des plaines n'est qu'un pâle crépuscule. En face d'un horizon sans bornes, incandescent et vaporeux, où le ciel et la terre se confondent, et dans un tel silence que lorsqu'un caillou tombe, on éprouve une espèce de frisson. Comment ne pas prendre en pitié les becs de gaz, la lumière électrique et les feux d'artifice, quand on a vu monter et resplendir la lune par une belle nuit d'été sur les glaciers austères de la Maladeta. Le caractère le moins flexible se modifie devant de tels spectacles. Je le sens bien. Je m'en accuse, mais ne m'en excuse pas, car je plains ceux que la nature et les montagnes laissent insensibles. Il leur manque quelque chose, ce sont des instruments fêlés et des cloches qui sonnent mal. Mais les montagnes ne développent pas seulement le sentiment du beau, elles ont aussi le don de faire aimer le bien. Elles sont essentiellement moralisante, tant il est vrai que le beau, bien compris, bien senti, mène au bien dont il est un reflet. Ils sont frères. N'y a-t-il pas, dans la forme même des hautes montagnes, dans leurs lignes effilées, dans leurs poses orgueilleuses, dans leur sérénité, dans leur élan superbe vers l'infini et l'azur éternel, n'y a-t-il pas dans tout cela une espèce de symbole ? Quelque chose de contagieux, d'irrésistible et d'enivrant, qui change presque la nature de notre âme, la détache de la terre et l'emporte vers le ciel. On pourrait exprimer en maître la limite supérieure des mauvaises passions. On est meilleur à 3000 mètres qu'au niveau de la mer. Aucune souillure, aucun mauvais estin ne monte si près de Dieu. La transparence de l'air à de grandes altitudes, l'intensité de la lumière, le bleu marin du ciel, la clarté merveilleuse qui fait tout resplendir, et le relief extraordinaire, presque effrayant, que prennent tous les objets, même les plus éloignés, tout cela aussi a une puissante action morale. On ne croit plus être sur la terre, on est ébloui, on ferme les yeux. Et même alors, on est encore halluciné par la lumière. On n'a que des pensées heureuses, dorées, riantes, élyséennes et lumineuses. Et l'idéal du paradis devient un océan de linge illuminé par le soleil. C'est bien le cœur brûlant de l'univers et le symbole de Dieu dans la nature. Si les souvenirs d'un montagnard écrits par Henri Russel sont à considérer comme une autobiographie, ils fourmillent aussi par endroits de réflexions philosophiques comme celles qui viennent d'être présentées. La deuxième édition, revue et corrigée des souvenirs d'un montagnard, date de 1908.
Voilà pour cette réflexion avec le comte Henri Russel, qui a des talents d'écrivain. Ces souvenirs d'un montagnard sont une œuvre riche et originale.
En effet, car non seulement il raconte ses ascensions, mais il nous donne à voir les différentes facettes de ces montagnes. Et il livre, comme vous l'avez dit, ses réflexions.
Il faut dire que lorsque Russel écrit « Les Pyrénées sont un vaste terrain d'aventure et les pyrénéistes de véritables aventuriers ».
Il y avait effectivement encore des cartes à dresser, des pics à nommer. Et quand Russel part gravir la crête d'enfer en 1867, il ne sait pas, Gilles, si ce sommet est accessible.
Eh oui, et puis on s'aventurait sur les monts avec un matériel parfois sommaire, un bâton ferré, une corde, une hache ou bien encore un piolet pour tailler des pas dans la glace.
Oui, c'était vraiment très sommaire.
Voilà pour cette chronique aujourd'hui avec Henri Russel. Alors, la semaine prochaine, on part dans le 64.
Oui, dans les Pyrénées-Atlantiques, Gilles, à Biarritz avec Marie-France Le Cat.
Allez, direction l'océan. On vous souhaite une très bonne semaine, Anne Lasser. Et on se retrouve donc la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Gilles.
Merci, Anne.
Was my first love. and it will be my last. Music of the future and music of the past. To live without my music would be impossible to do.
Présence à Saint-Gaudens 94.1.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
L'Union européenne adopte de nouvelles sanctions contre la Russie, la 21e salve depuis l'invasion de l'Ukraine à grande échelle il y a